11h sur Radio Campus Tour et probablement ailleurs en France aussi. Bonjour chers auditeurs, bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous écoutez La Méridienne. Alors, aujourd'hui, dans cette émission en partenariat avec la MSH, la Maison des Sciences de l'Homme Val-de-Loire, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Aubin. Bonjour.
Bonjour.
Alors Emmanuel Aubin, vous êtes professeur de droit public et président de la commission scientifique disciplinaire paritaire 0204, co-directeur du programme français-japonais Nihon Europa, et vous appartenez aussi à l'IRGI, l'Institut de recherche juridique interdisciplinaire François Rabelais. Alors, pour nos auditeurs étudiants, peut-être voulez-vous tout d'abord nous donner à voir votre parcours. Comment devient-on professeur de droit public à l'Université de Tours?
Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai à l'époque, dans un autre millénaire, suivi un parcours à l'époque, on appelait ça le DEA, diplôme d'études approfondies, le master aujourd'hui à l'université de Tours. J'ai effectué ma thèse de doctorat également à Tours. Je l'ai soutenue en 1999. Ensuite, je suis devenu maître de conférence. Puis plus tard, via un ultime concours qui a clos le parcours, hein, faut à peu près 10, entre, oui, 10, 11, 12 années. Après le baccalauréat, je suis devenu professeur des universités et je viens de rejoindre avec grand plaisir l'université de Tours depuis quelques temps.
Alors peut-être aussi expliquer, donc droit public, qu'est-ce que c'est le droit public et est-ce qu'il existe d'autres droits?
Oui, tout à fait. Alors c'est l'image des études de droit, en fait, il faut avoir l'image d'un arbre. C'est-à-dire que plus on avance, plus on approfondit la connaissance du droit en s'intéressant aux branches de celui-ci. Et au départ, on commence vraiment par un tronc commun, qui est le droit public et le droit privé. Alors le droit privé s'intéresse plutôt aux personnes physiques, droit des obligations, aux personnes également morales que sont les entreprises, les associations, le droit des sociétés, le droit matrimonial, etc. Le tronc commun, c'est le droit des obligations. Alors qu'en droit public, on s'intéresse plutôt aux personnes publiques, à l'État, au fonctionnement de l'État, aux relations de l'État avec les citoyens, c'est le droit constitutionnel, avec les administrés, c'est le droit administratif et les fonctionnaires, mais également avec les collectivités territoriales et puis également l'Union européenne. Hein. Tout le droit européen est rattaché essentiellement au droit public.
Alors pourquoi on choisit, enfin, pour ce qui vous concerne, pourquoi le droit public?
Alors un intérêt pour la chose publique qui est apparu en deuxième année de droit il y a longtemps. Et les étudiants en droit, en fait, pendant les deux premières années, n'ont pas de choix à faire. Et puis ensuite, c'est vrai qu'en troisième année, on nous demande toujours de faire le choix entre plutôt la partie droit privé et droit public. Et moi, j'étais très intéressé par le droit constitutionnel, le droit européen également, tout ce qui touchait à la citoyenneté. Et donc, j'ai fait ma thèse sur la citoyenneté européenne et sa construction face au droit constitutionnel en France. Donc, c'est vraiment un intérêt pour la chose publique qui m'a amené à choisir et à comprendre comment fonctionne l'État dans notre pays et en Europe.
Mais vous devez quand même maintenir, enfin, quand on étudie ou qu'on travaille dans le domaine du droit, on suppose qu'il faut mettre à jour ses connaissances de façon constante.
Oui, le droit, c'est comme l'heure, ça change tout le temps. Et le droit est une science de la curiosité. Et on le verra tout à l'heure, c'est ce qui m'a amené vers ce thème, hein, des personnes âgées. C'est-à-dire que le droit n'est jamais déconnecté de la réalité. Et pour être un bon juriste, je le dis souvent à nos étudiantes et étudiants, il faut s'intéresser à l'histoire, il faut s'intéresser à l'économie, la sociologie, la science politique, les sciences sociales. Donc le droit est vraiment une science qui bouge, qui est connectée au réel et effectivement, je suis d'accord avec vous, pour être un bon juriste, il faut toujours être en veille.
Mais alors, comment dire, est-ce que l'idée de droit est forcément liée à l'idée d'éthique?
Alors parfois, c'est vrai qu'on oppose les deux. Et puis depuis une bonne quinzaine d'années, et plus spécifiquement ces dernières années, on a rapproché le droit et l'éthique, parce que finalement, l'éthique et la déontologie, ça permet de se poser les bonnes questions avant qu'il ne soit trop tard, peut-être, dans certains domaines. Et le droit intervient parfois lorsqu'il est trop tard, justement, lorsqu'un comportement a été adopté. Et l'éthique s'est beaucoup rapprochée du droit, alors par l'intermédiaire notamment des sciences médicales. Je fais également partie d'un think tank qui s'appelle l'Observatoire de l'éthique publique. Et on travaille beaucoup sur les zones grises dans la sphère publique pour essayer justement, non pas de moraliser, encore une fois, il faut distinguer la morale de l'éthique, mais pour réfléchir aux conséquences des processus sur les personnes. Et l'éthique permet de réfléchir à cela, et le droit donne des moyens techniques, juridiques, pour justement accompagner les personnes publiques et garantir les droits des personnes privées, comme les personnes âgées.
Mais alors, si on parle de zone grise, est-ce qu'on peut penser qu'on peut tordre le droit de certaines façons?
Alors, c'est là tout le problème. Votre question est intéressante parce que
Merci.
le droit, ça peut être du marbre ou ça peut être de la pâte à modeler. C'est du marbre quand on veut que les choses ne changent pas. Et parfois, il arrive qu'en effet, on se réfugie derrière la norme juridique pour dire qu'il faut que rien ne change. Et d'autres fois, on a tendance, c'est bien le problème parfois de la politisation du droit, on a tendance à triturer les normes juridiques pour justement faire plier le droit à une certaine réalité que l'on projette, entre guillemets. Donc le droit, c'est très flexible, hein. C'est vraiment, contrairement à ce que l'on pense, on a souvent l'image caricaturale du juriste avec son code rouge sous le bras, rouge ou bleu, mais en réalité, le droit est vraiment une science. Surtout pas molle. Parfois, on oppose le droit aux sciences dures, voilà, les mathématiques, la physique, etc. C'est une science qui est flexible parce que la vie est compliquée et le droit est le miroir, justement, de la vie.
Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas parfois des choses qui entrent en conflit? Par exemple, il y a le code de telle chose, le code de telle autre chose. Est-ce que ça arrive qu'il y ait des textes de loi qui s'intéressent au même champ, à la même réalité, et en fait qui se croisent ou s'opposent?
Alors là aussi, effectivement, il y a parfois des antinomies. D'ailleurs, c'est souvent la fonction du juge que de gérer des contraires. La liberté contre la sécurité, par exemple, voilà un beau sujet de débat, dans le cœur du sujet d'ailleurs. Il y a parfois des contradictions apparentes, mais finalement, l'avantage du droit, c'est que la nature a horreur du vide, mais il n'y a jamais de vide en droit. C'est-à-dire que soit vous avez un texte et vous l'interprétez, soit vous avez une situation dans laquelle il nous faut un texte, et dans ces cas-là, on va chercher un texte pour trouver une solution. C'est un peu comme la médecine, le droit. Vous avez au départ une situation, un problème à régler. Il faut qualifier ce problème. En médecine, on utilise des termes que je ne pourrais pas utiliser aujourd'hui. Et en droit, on utilise des termes techniques pour apporter une solution qui va être la thérapie. Il faut régler le problème. Voilà, donc il y a cette démarche qui est assez similaire. Et finalement, quand on voit des contradictions apparentes entre deux normes, vous donniez l'exemple de deux codes, en fait, c'est tout le travail du juriste que de concilier les contraires pour arriver à la moins mauvaise des solutions.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité établie, en tout cas.
Jamais. Jamais. Si un juriste a trop de certitudes, c'est un mauvais juriste parce que, précisément, c'est vraiment la science de l'humilité, le droit.
Ah, c'est un bon entendeur. Et alors, Emmanuel Aubin, vous êtes également membre de l'IRJI. Alors, est-ce que vous voulez nous expliquer ce que c'est?
Tout à fait. Donc alors là, c'est une particularité, l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je suis venu dans cette belle faculté de droit et sciences sociales, économie de Tours. Dans de nombreuses facultés, il y a plusieurs groupes de recherche. Et là, la force de Tours, c'est qu'il y a ce groupe de recherche, l'Institut de recherche juridique interdisciplinaire, qui permet d'avoir sur les notions une approche qui va aller au-delà des clivages. Souvent dans les facultés, c'est ce qu'on peut regretter parfois, il y a un groupe de recherche des droits entre juristes de droit public, un autre juriste de droit privé, des historiens du droit, etc. Et là, l'IRGI, eh bien, c'est une fédération en fait de toutes les énergies. Donc vous avez des spécialistes du droit privé, du droit public, du droit européen, de l'histoire du droit, des économistes. Ce qui fait la force de ce groupe de recherche, c'est qu'au fond, lorsqu'on fait des colloques et lorsque l'on réfléchit sur un thème, on aura le point de vue de l'historien, de l'économiste, du géographe, du droit public, hein, un juriste de droit public et juriste de droit privé. Donc c'est un groupe de recherche interdisciplinaire et c'est ce qui permet d'avoir un regard nouveau également sur, sur les notions et pour les colloques, ça évite de trop, d'avoir une approche trop spécialisée.
C'est-à-dire qu'il y a plus de monde au colloque alors ?
Excusez-moi ?
C'est-à-dire qu'il y a plus de monde qui vient au colloque alors ?
Bah, généralement, oui, les colloques fonctionnent très bien. C'est aussi une particularité de l'IRGI et qui est également développée. Je crois que c'est une des premières facultés en France et un des premiers groupes de recherche à le faire. Lorsqu'il y a des conférences, elles sont retransmises en direct sur Facebook Live. Ce qui permet d'avoir beaucoup plus d'auditeurs également et de personnes qui regardent, qui écoutent le colloque.
Alors peut-être voulez-vous nous donner quelques exemples de colloques qui ont pu avoir lieu récemment ?
Oui, alors il y a eu beaucoup de colloques qui ont été organisés par l'IRGI. Alors malheureusement, la période de confinement a obligé à faire des webinaires ou des colloques à distance. Et par exemple, tout récemment, il y a eu un très beau colloque sur les relations entre la médecine et la religion, par exemple. C'était il y a quelques semaines, donc un colloque passionnant, la religion à l'hôpital, la religion dans les soins. Et donc là, évidemment, il y avait des publicistes, des historiens, des privatistes dans les spécialistes de droit privé, des spécialistes du droit hospitalier, des spécialistes de l'histoire, de la religion. J'ai cet exemple-là. Ou sinon, prochainement, il y aura également, dans le cadre de Nihon Europa, donc cette relation privilégiée qu'il y a à Tours, où l'on compare les problèmes juridiques en France et au Japon, il y aura bientôt un colloque très intéressant sur les accords de commerce entre l'Union européenne et le Japon. L'année prochaine, on va faire un gros colloque sur droit et gastronomie, figurez-vous. Ça s'appelle l'IRGI François Rabelais, le groupe de recherche, et droit et gastronomie avec un regard France-Japon. Voilà, donc il y avait déjà eu également un colloque l'année dernière sur les exploitations viticoles. Je ne saurais vous dire, j'invite les auditrices et auditeurs à aller sur le site de l'IRGI pour mesurer la richesse des interventions des colloques ici à Tours.
Et alors cet intérêt pour la gastronomie, est-ce qu'il y a un lien peut-être avec l'IEHCA ?
Oui, tout à fait. Ce sera un partenariat qui se fera. D'ailleurs, c'est un peu... on est en train justement de solliciter, c'est la semaine prochaine qu'on lance vraiment les choses. Donc c'est un petit peu une avant-première que je vous réservais. Et donc on fera également avec l'IEHCA et puis on va, comme vous savez que Tours est la belle cité de la gastronomie, bien évidemment, compte tenu des difficultés rencontrées par le secteur justement de la restauration, on voudrait l'année prochaine faire cet événement-là et on va mobiliser toute notre énergie dans les semaines et les mois qui viennent pour avoir cette approche pluridisciplinaire sur droit gastronomie sous un angle également historique. Et puis on espère faire venir des chefs, des sommeliers, voilà, avoir une approche très concrète des relations droit gastronomie.
Et alors, vous l'évoquiez à l'instant, Emmanuel Aubin, les parallèles entre le Japon et la France. Et justement,
oui.
Vous êtes co-directeur du programme franco-japonais Nihon Europa, pardon pour mon accent.
Et voilà, alors... Il est parfait.
Alors, qu'est-ce que ce programme ?
Alors, c'est un programme qui a été fondé par le professeur Pierre-Yves Monjal, qui s'est rendu à au moins une vingtaine de reprises au Japon et qui a étendu son expérience qui a souhaité institutionnaliser l'expérience et de façon à nouer un réseau en fait, de relations entre des universités françaises et japonaises. Et donc, il y a 15 universités japonaises, les universités les plus prestigieuses, c'est-à-dire les universités impériales, qui sont les universités publiques au Japon. Il y a 800 universités au Japon, dont 80 qui sont des universités publiques. Donc, il y a 15 universités du Japon, 15 universités françaises. Et dans le cadre de ce réseau, qui est informel, mais qui fonctionne très bien, et bien on a organisé, le professeur Monjal, Montréal, et puis ensuite on a fait les choses ensemble, beaucoup plus récemment, depuis l'arrivée là à Tours, plusieurs colloques depuis 2014, hein, ça fait maintenant 7 ans. Donc on a comparé, par exemple, les réformes des fonctions publiques en France ou au Japon. On a parlé du vieillissement aussi, dans le cas de Nihon Europa à Tokyo, c'était en septembre 2019. Et là, le professeur Monjal organise, donc à Nihon, un colloque. Donc, il y aura des collègues japonais. Et donc, il y a tout un réseau qui a été structuré avec des collègues japonais qui, heureusement pour nous, parlent parfaitement notre langue.
Et d'ailleurs, dans le cadre de ce programme, vous avez peut-être, on peut le dire spécifiquement, travaillé autour des personnes âgées, il me semble.
Tout à fait, c'est lors d'une mission qui avait été menée à bien dans le cadre de Nihon Europa en avril 2017, au moment où les cerisiers sont en fleurs au Japon, qu'on avait fait le tour de 9 universités et on était arrivé avec beaucoup d'humilité pour proposer notre force de travail et dire voilà sur quel thème vous souhaiteriez qu'on travaille. Et on s'est rendu compte qu'il y avait, alors là cette fois-ci, c'est un peu contradictoire à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais une sorte de vide, c'est-à-dire que les juristes s'intéressaient très peu aux conséquences du vieillissement, alors qu'il y a énormément de problèmes juridiques qui sont liés au vieillissement de la société. Et c'est lors de cette mission qu'on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Et donc on a proposé, on a répondu à un appel d'offres, s'appelle un programme ubercurien. On est vraiment très heureux. Alors c'était deux équipes, une équipe française, une équipe japonaise. Et bon, vous savez que le droit fait partie du secteur sciences humaines et sociales. Et c'est très difficile parfois de réussir à décrocher ces programmes. Et là, on est très heureux parce qu'on c'était la première fois que ce secteur sciences humaines et sociales décrochait un programme ubercurien à Tokyo. Donc on a travaillé pendant 2 ans, on a fait 2 colloques. Et puis, dans le cadre de Nihon, on a publié un ouvrage en français. Et tous les travaux de Tokyo également ont été mis en ligne sur... la prestigieuse université de Tokyo, c'était il y a maintenant 1 an.
Alors vous avez coordonné l'équipe française. Est-ce que vous voulez nous dire un peu comment ça se passe, comment travaille une équipe de chercheurs en France, comment on travaille en lien avec l'équipe du Japon?
Oui, tout à fait. Alors le grand intérêt de ce programme ubercurien, c'est ce qui m'a séduit et ce qui nous a amené à postuler, c'est qu'en fait, il faut recruter dans l'équipe des jeunes chercheurs, donc des chercheurs de moins de 40 ans. Donc des collègues qui sont entrés justement à l'université il y a un peu moins de 10 ans. Et donc, quand on dirige les collègues, eh bien, il fallait chercher de nombreuses universités, donc ils venaient de 8 universités différentes. Alors on a organisé, puisque... À l'époque, le présentiel était de... Donc, on a fait plusieurs séminaires pour trouver les thèmes de recherche. Et puis ensuite, on a progressé ensemble pour organiser un premier colloque qui s'était tenu à Poitiers en mars 2018, sous l'égide de Nihon Europa. Et ensuite, le principe, c'était qu'il y ait un colloque à Tokyo. Et donc là, ce qui était le grand avantage de ce financement, c'est que ça m'a permis de faire en sorte que les jeunes collègues, puissent venir à Tokyo. Ce qui a permis évidemment sur place pendant quelques jours de faire le colloque et également pour eux de découvrir les collègues qui étaient en poste à Tokyo.
Et quels étaient les sujets des colloques justement?
Alors en mars 2018, le colloque était consacré aux conséquences juridiques et sociales du vieillissement en France et au Japon. Donc là on s'est interrogé sur justement les conséquences de ce phénomène qui est commun à la France et au Japon et d'ailleurs... la plupart des pays du monde, qui est le vieillissement des sociétés. Et donc, on a essayé de voir quels étaient, alors à la fois sous l'angle juridique et social. Donc, on avait déjà ouvert ici on débordait un petit peu du droit et c'est ça qui faisait l'intérêt de ce programme. Le colloque a également appréhendé le recours aux innovations technologiques. Donc, on avait déjà commencé en mars 2018 à aborder cette question des relations des machines parlantes et émotionnelles et extrêmement sophistiquées avec les personnes âgées, avec notamment, je me souviens, d'une collègue, Nathalie Neufjean, qui est la grande spécialiste en droit de la robotique, la seule en France, qui est venue participer au colloque. Et puis à Tokyo, on s'était plutôt intéressé la question, c'était comment améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Et donc là, on a comparé en fait les conditions dans lesquelles les personnes âgées vivent dans les EHPAD, donc les maisons de retraite, hein, pour dire autrement en France et au Japon. On a comparé les formules, le rôle de la famille, le soutien de l'État, et cela nous a permis véritablement d'arriver à des conclusions qui étaient peut-être assez étonnantes, auxquelles on ne songeait pas tout particulièrement au départ.
Vous voulez nous en dire un mot de ces conclusions?
Oui, bien sûr. D'abord, c'est vrai que bon, c'était une période hantée, c'était avant la Covid-19, même si l'an dernier, il y a tout juste un an, je partais de Tokyo, tout juste là, il y a un an jour pour jour. Donc je devais visiter justement, ça c'est un point de convergence, à côté de Tokyo à Yokohama. Il y a une ville dans laquelle on a recouru de façon systématique à l'innovation technologique pour se soucier du bien-être des personnes âgées. Et on s'est rendu compte qu'en France et au Japon, le rôle de la famille, a priori, est très différent. Mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que dans les deux cas, ce qui importe pour les personnes âgées, c'est la solidarité de proximité. Et par exemple, Tokyo, c'est la plus grande ville du monde. Avec l'agglomération, c'est 35 millions d'habitants. On pense que les gens sont isolés, etc. Mais il y a une solidarité de quartier, de voisinage. Et en France, on lance beaucoup, depuis quelques années, par exemple, l'habitat inclusif, le logement intergénérationnel. Ce sont des solutions qui convergent un petit peu, de mélanger les générations. Donc ça, c'est un point commun qu'on avait évoqué. La grande différence que l'on pensait au départ, et on s'est vu que ça a un peu atténué, c'est que, par exemple, au Japon, on accepte très facilement des robots sociaux auprès des personnes âgées. On se disait, en France, il y a peut-être davantage de verrous. Mais en réalité, on s'aperçoit que non. Aujourd'hui, dans une centaine d'EHPAD, il y a des robots sociaux qui interviennent avec des personnels. Et on s'aperçoit qu'il y a, par rapport à la technologie, on pensait qu'il y aurait plus de différences dans ce rapport-là entre les Français et les Japonais. La différence, elle est apparue quand même sur le terrain de la protection des données personnelles. On s'est aperçu que la France était plus protectrice de l'individu que le Japon, sur cette question-là bien précise, hein, des données personnelles enregistrées, notamment les données de santé des personnes âgées.
Eh bien, avant de poursuivre cet échange, chers auditeurs et vous, Emmanuel Aubin, je propose de faire une pause musicale et nous allons écoutez RL Besson, vous écoutez La Méridienne, nous sommes sur Radio Campus Tours. Thank you. Mireille Besson sur Radio Campus Tours. Vous écoutez toujours La Méridienne. Je suis en studio avec Emmanuel Aubin. Alors, nous parlions du Japon et de la France, justement, le rapport aux robots et au vieillissement. Alors, peut-être que vous voudriez, Emmanuel Aubin, nous préciser quelque chose sur les différences qu'il peut exister entre ces deux pays.
Oui, avec plaisir. C'est vrai que dès lors qu'on parle d'innovation technologique et de recours aux robots, la question première qu'il faut se poser, c'est celle de l'acceptation et de l'acceptabilité de vivre auprès d'une machine parlante et sophistiquée. Et au Japon, il n'y a pas de verrou à cet égard. La culture qui anime les Japonais, c'est l'esprit Shinto, hein, lié au shintoïsme. Et en fait, dans cet esprit du shintoïsme, un végétal, un animal, tout être a une âme. Les Japonais vivent beaucoup autour de ce qu'ils appellent les kami, les petits esprits. Et il y a notamment dans les temples, pour nos auditrices et auditeurs étudiants, un temple réservé aux examens où on vient et on remplit un petit papier. Voilà. Et donc, il n'y a pas de blocage à accepter des robots qui sont compagnons. Alors, quand on dit compagnons, entendons-nous bien, qui accompagnent les personnes âgées dans leur vie quotidienne, mais également dans les soins. On en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a des robots qui, déjà, ont montré qu'ils étaient très efficaces auprès de personnes âgées qui souffrent, par exemple, de la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc, au Japon, l'acceptation se fait bien, d'autant plus qu'ils ont utilisé, c'est la spécificité japonaise, hein, la culture japonaise, ce sont les mangas. Et les Japonais ont utilisé le principal héros de manga, Astro, des années 50, pour promouvoir justement l'idée d'un robot qui agit pour le bien des êtres humains. Alors qu'en France, on a une approche plutôt méfiante à l'égard d'un robot. D'abord, la première idée à chaque fois, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de... Finalement, je me suis dit, il y avait un livre à écrire. L'idée fausse, c'était en France de se dire, si on crée de l'innovation technologique, si on met des robots auprès des personnes âgées, c'est pour remplacer des travailleurs sociaux. Alors qu'en réalité, justement, c'est l'un des intérêts de travailler sur cette question, quand vous faites intervenir un robot, il y a deux personnes de plus. Donc ça crée de l'emploi, bien au contraire, et plutôt que d'en supprimer. Donc il y a ce mythe de la substitution en France. Dès qu'on recourt à une créature artificielle, on pense qu'elle va prendre la place d'un être humain, ce qui n'est pas le cas. En France, on craint également toujours le problème des données personnelles, puisque ces machines enregistrent les données de santé, et donc on a tout de suite le réflexe de la CNIL, du règlement européen de protection des données personnelles, et puis un peu ce que j'appelle maintenant un peu par dérision le syndrome Terminator, c'est-à-dire qu'on se dit si jamais le robot cause un préjudice à la personne âgée, qui va être responsable ? Et donc on appréhende, il y a cet aspect-là évidemment, hein, je dirais la même question tout à l'heure, peut-être qu'on l'abordera, des véhicules autonomes hein, pour les personnes âgées, hein, c'est un des aspects aussi abordés dans le livre. Donc un rapport très différent, plutôt une méfiance spontanée en France, qui est soulevée quand on va dans les EHPAD et puis quand on regarde la pratique. Et puis au Japon, une acceptation par la force des choses également, hein, parce qu'il y a très très peu de travailleurs sociaux au Japon. Et donc, on est moins réticent également à recourir à la technologie pour accompagner la vieillesse. Et puis, l'autre différence, c'est qu'au Japon, vous savez, c'est le pays au monde où les personnes vivent le plus longtemps. L'espérance de vie d'une femme est de 89 ans et d'un homme de 82 ans. Donc, le regard sur le vieillissement est très différent au Japon. Ce qui compte, ce n'est pas de vivre le plus longtemps possible, mais de donner une meilleure qualité de vie aux années qui restent. Alors qu'en France, on apprendait différemment finalement la vieillesse. Vous disiez peut-être tout à l'heure hors antenne, hein, je ne révèle pas un secret, mais le regard sur le vieillissement en France, c'est comme si on voulait cacher l'existence de la vieillesse hein, en fait. Comme si on n'assumait pas que la vieillesse est une chance aussi pour la personne et qu'elle peut vivre de belles expériences, notamment grâce aux innovations technologiques.
Voilà, donc vous l'évoquiez, hein, va paraître bientôt un livre donc, dont vous êtes l'auteur, « Les personnes âgées et les robots, innovation technologique, droit et éthique ». Donc ce sera à retrouver chez Berger-Levrault. Alors, est-ce que vous voulez nous présenter cet ouvrage ?
Avec plaisir. L'idée, en fait, de départ, donc c'est la ponctuation. C'est pour ça que j'ai deux pages de remerciements, parce qu'un ouvrage, c'est jamais un ouvrage écrit seul. C'est grâce aux autres, en fait, souvent qu'on arrive à trouver. J'avais beaucoup de personnes à remercier, parce que l'idée de départ, c'était de travailler sur les robots et les objets connectés pour savoir s'ils pouvaient apporter un supplément d'âme dans l'accompagnement aux personnes âgées. Quelle valeur ajoutée, en fait, ils pouvaient apporter. Et je me suis rendu compte, en fait, et c'est ce qui m'a poussé à écrire cet ouvrage, qui est pluridisciplinaire, parce que j'ai rencontré des roboticiens, j'ai discuté avec des philosophes, avec des spécialistes de l'éthique, avec des spécialistes également de la philosophie sur le vieillissement, des médecins, et puis bien évidemment des juristes. Au départ, je me suis rendu compte qu'il y avait une idée fausse. On disait toujours, en France, comme on dit, les seniors sont vulnérables, ils sont dépassés par Internet, ils ne s'intéressent pas aux nouvelles technologies. Bon, voilà, beaucoup de... En réalité, dans le livre, je montre l'inverse. Et j'allais dire, malheureusement, la Covid-19 a accéléré cette transition numérique dans la politique liée au vieillissement de la société. De plus en plus de personnes âgées, chaque étudiante et étudiant qui nous écoute, pourrait, je pense, en attester, hein, ont un smartphone, de plus en plus de personnes âgées ont même un compte Facebook, un ordinateur. Alors c'est vrai que parfois c'est compliqué, mais on a constaté une augmentation de 60% de l'usage des réseaux sociaux, notamment pendant le confinement. Alors l'ouvrage a commencé avant le confinement, mais je l'ai écrit pendant le confinement. Et donc j'ai fait le tour de toutes les initiatives qui ont lieu, et l'idée, c'était d'abord de montrer que on pouvait, comme on le dit au Japon, rajeunir le vieillissement, c'est-à-dire mieux le prévenir avec une utilisation humaine appropriée des nouvelles technologies. Et la seconde idée, c'était de dire, si on développe ça, il faut quand même réfléchir en tant que juriste aux conséquences éthiques de la présence des objets connectés, parce qu'il y a un risque aussi de surveillance de l'individu, hein, de captation de ses données médicales, etc. Ce que j'ai essayé de démontrer, c'est finalement de réaffirmer l'opportunité que représentent les nouvelles technologies au service du vieillissement, de la santé, à travers des exemples concrets. Les maisons domotiques, par exemple. On aura de plus en plus d'électronique dans les maisons pour prévenir les chutes des personnes âgées. On ne le sait sans doute pas, enfin on ne le dit pas assez en tout cas, mais les chutes des personnes âgées, c'est 10 à 12 000 décès par an. Donc il y a des semelles, j'ai donné des exemples dans l'ouvrage, des lamelles de parquet qui sont dotées de capteurs et qui vont détecter un risque de chute. Il y a également des lunettes qui détectent la chute, des semelles intelligentes, etc. Donc énormément d'objets connectés qui vont permettre de prévenir la chute d'une personne âgée, par exemple. Donc il y a ici un certain nombre de dispositifs innovants, et j'ai essayé, alors très simplement, hein, de faire le tour de la question. Je dois dire que j'ai découvert beaucoup plus de choses que je ne l'imaginais au départ.
Alors vous évoquiez les EHPAD, hein, les établissements qui accueillent les personnes âgées dépendantes.
Oui.
Alors peut-être voulez-vous nous donner des exemples concrets justement de l'utilisation de ces nouvelles technologies dans certains EHPAD ?
Oui, avec plaisir. En recensant les choses les innovations, les pratiques qui ont lieu, notamment pendant la Covid, mais encore une fois, je ne voudrais pas faire croire aux auditrices et auditeurs qu'il a fallu attendre ce maudit virus pour qu'on avance. J'ai pu assister, par exemple, à la présence du robot, le robot Zora, qui est un petit robot qui est utilisé, en fait, pour... Alors, de façon exceptionnelle, et c'est pour ça que les personnes âgées s'y intéressent, il ne faut pas que ce soit régulier, pour des séances de gymnastique. Alors, un journaliste avait un peu, je me souviens, avait trouvé le titre « Danse avec les robots avec l'EHPAD », dans l'EHPAD. Mais en fait, on s'est rendu compte que la personne qui intervenait, qui d'habitude faisait la gymnastique sans robot, s'est rendu compte que les personnes âgées, parce qu'il y avait ce petit robot qui participe, eh bien, participaient plus spontanément et étaient plus nombreuses à s'inscrire. C'est-à-dire qu'il y avait ce côté un peu, justement, étonnant de voir ce robot qui, en fait, effectue des gestes et montre aux personnes âgées ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On peut constater. Et donc, quand ce robot intervient, non seulement il y a le préparateur physique qui est là, mais il y a également une personne qui connaît bien le robot, plus une personne de l'EHPAD. Donc, vous avez trois personnes. Hein, donc, le robot n'est pas tout seul, bien au contraire. J'ai également vu ce qui était très intéressant dans un EHPAD, donc établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes, à Bordeaux, un module de plan de table numérique. Alors là, c'est la domotique qui s'invite à table. Alors c'est un dispositif, c'est une prise de commande de repas, alors PCR, alors rien à voir avec l'acronyme que vous savez. Et en fait, ça permet d'individualiser les repas des résidents en fonction de leurs besoins nutritionnels, la prise de médicaments, les contre-indications. Comme c'est finalement cette tablette-là qui enregistre tout, eh bien, les personnels n'ont plus le tableau Excel à remplir, des erreurs peuvent être commises, etc. Et à la fois les personnels de l'EHPAD et puis les personnes âgées disaient « mais maintenant c'est génial parce que c'est vraiment individualisé ». Alors c'est expérimental, hein, et évidemment pour l'instant c'est loin d'être généralisé, mais ça c'est un plus également parce que l'alimentation c'est hyper important pour les personnes âgées. Il faut qu'il y ait ce plaisir de vivre et ce plaisir gustatif, et donc là l'innovation technologique peut accroître cela. J'ai vu également, alors c'est très intéressant, des casques de réalité immersive. En fait, ce sont des casques que l'on pose sur le visage et qui permettent de voyager. Par exemple, une personne âgée est allée à Venise il y a 30 ans, elle ne peut plus y retourner aujourd'hui. Vous avez un voyage, la grande évasion, pendant 10 minutes. Ce sont des casques de réalité virtuelle. Ben ça plaît beaucoup aux personnes âgées dans les EHPAD parce que ça leur redonne de l'énergie, ça leur rappelle des bons souvenirs. On n'est pas, j'allais dire, dans l'instrumentalisation ici des machines au détriment des personnes âgées. Donc il y a une stimulation qui se fait. J'ai également vu un vélo pour les balades virtuelles. C'est-à-dire que la personne âgée, en fait, pédale sur un vélo et en même temps se déplace dans le paysage qu'elle a choisi. Donc là aussi, sont des choses auxquelles on ne songe pas spontanément, mais qui existent et puis qui permettent à la fois de cultiver une bonne forme et de s'évader en voyageant, parce que malheureusement, bien souvent, l'âge ne permet plus toujours, surtout quand on est en EHPAD, de pouvoir voyager. Voilà, donc ces exemples d'aménagement dans les EHPAD. Et puis, bien évidemment, dans la période Covid, il y a eu énormément de formations pour pouvoir communiquer avec les proches et éviter. Souvenons-nous, il y a un an, hein, quasiment jour pour jour, on entrait dans le premier confinement et des personnes âgées étaient même confinées dans leur chambre. Donc, les nouvelles technologies ont permis, dans une certaine mesure, d'éviter la coupure et ce phénomène de glissement dont on parlait des personnes âgées.
Voilà, donc le syndrome de glissement, hein, c'est les... Bon, pour résumer vraiment énormément, c'est de dire que les personnes âgées qui se laissent mourir, en fait.
Oui.
Et donc là, pour de multiples raisons d'ailleurs, mais donc dans ce cadre-là, est-ce que ces outils numériques peuvent aussi aider les personnes âgées, notamment celles qui peut-être perdent des liens sociaux, ont plus de rapport avec leur famille pour diverses raisons?
Oui, tout à fait. J'ai le souvenir, c'était une résidente âgée de 85 ans qui avait ces mots-là, qui disait « mais je ne comprends pas parce qu'on nous coupe du monde, alors que nous, avec les années qui nous restent à vivre, on veut profiter justement, on veut être en contact, on ne veut pas rater des anniversaires, on veut être présent dans la famille, etc. Un certain nombre d'entre elles ont découvert WhatsApp, Skype, etc. Et quand elles ont été, alors elles étaient aidées par le personnel des EHPAD, mais le simple fait, on n'imagine pas, l'une d'entre elles me disait « mais quand j'entends le petit bruit d'arrivée d'un message, je ne suis plus seul ». C'est peut-être idiot à dire, mais on n'imagine pas le bien que ça peut faire d'entendre l'arrivée d'un message et de voir une petite vidéo de petits-enfants, etc. Hein. Je n'aurais pas être fleur bleue, mais encore une fois, c'est important ce lien pour les personnes âgées avec les enfants et les petits-enfants. Et le fait d'entrer dans la société du sans-contact, hein, il y a un philosophe qui a écrit un super bouquin, La société du sans-contact, eh bien, on présupposait que les personnes âgées y seraient hostiles, mais en réalité, par la force des choses, dans ce contexte-là, certaines ont pu maintenir malgré tout le lien. Et bien évidemment, le souhait, c'est de pouvoir de nouveau, on a tous à l'esprit le nouveau clip gouvernemental. Voilà, de cette, on a changé complètement la logique d'une grand-mère qui rêve d'embrasser ses petits-enfants, qui est une publicité pour le vaccin. Alors qu'au départ, souvenez-vous, le premier spot gouvernemental, c'était une grand-mère à qui on fêtait l'anniversaire, qui était contaminée par ses petits-enfants. Et donc on disait, on voit que les choses ont changé. Et les nouvelles technologies, j'ai pu le constater très clairement, ont parfois limité la casse dans la rupture du lien social.
Alors, vous mettiez en avant aussi un aspect ludique quand vous parliez de ce robot qui accompagne la gymnastique.
Oui.
Est-ce que cet aspect ludique, justement, peut être utilisé pour, disons, des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, alors... Alors, c'est plus. J'allais dire que le côté attractif, rassurant du robot, plus que ludique, joue. Par exemple, vous avez ce petit robot japonais qui s'appelle Paro, qui est assez connu. C'est un petit phoque animé. Et en réalité, les expressions qu'il a et les réactions qu'il a quand on le touche permettent de solliciter en fait des terminaisons nerveuses des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Qu'un être humain a du mal à solliciter. Et donc, le robot Paro, il y a également le robot Lovot, qui est un petit robot avec des grands yeux et puis qui est très expressif, va en fait stimuler le cerveau. Et donc, les roboticiens ont travaillé directement avec les spécialistes des maladies, et notamment les maladies d'Alzheimer, pour trouver la formule permettant de stimuler le cerveau des personnes âgées. Et on a constaté notamment que sur certaines personnes âgées, elles étaient moins agressives envers elle-même et envers également les personnes, qui avaient des résultats qui étaient assez prometteurs lorsqu'on leur recourait à ces robots qui deviennent en réalité des auxiliaires de soins.
Voilà, et donc vous évoquez, entre mille choses qu'on trouve dans cet ouvrage, l'idée que ça peut être un support à l'employabilité
oui.
des seniors. Alors,
oui.
Est-ce que vous voulez nous en dire plus ?
Alors là, c'est un sujet un peu tabou en France. J'ai bien conscience de l'aborder sous cet angle-là. Je songe notamment à l'expérience au Japon. Malheureusement, les Japonais ont un régime de retraite beaucoup moins... alors, on dit qu'en France, tout va mal, mais enfin, quand on voyage, quand on a la chance de voyager un peu, la retraite au Japon est vraiment beaucoup moins importante qu'en France. Et beaucoup de personnes âgées travaillent. Et notamment à Tokyo, parce que le prix des logements fait que les personnes âgées souvent habitent assez loin lorsqu'elles n'ont pas les moyens du centre-ville, elles peuvent être coupées. Donc le fait de travailler, de continuer à travailler, garde le lien avec la société. Mais il y a la pénibilité qui arrive. Quand une personne, avec les collègues en mission, quand on prenait le taxi à Tokyo, souvent c'était une personne de 75 ans qui conduisait. On était assez surpris au départ et en fait on disait oui, mais les personnes âgées conduisent les taxis pour parler avec des gens, pour être en lien. Et alors là, c'est la conduite tranquille, avec assistance évidemment électronique. Mais sur ce terrain-là, vous avez des personnes âgées notamment qui travaillent au Japon. Quand vous avez des travaux publics, elles font la circulation. Il peut y avoir une pénibilité. Certaines personnes âgées peuvent être amenées à porter des charges. Eh bien, des exosquelettes ont été créés il y a quelques années. Qui se porte comme un sac à dos et qui soulage en fait la colonne vertébrale, les bras des personnes âgées qui peuvent ainsi continuer une activité sans faire trop peiner le corps. Alors, est-ce que c'est un plus ? Est-ce qu'il faut s'en réjouir ? Est-ce qu'il faut le regretter ? J'ai posé la question. J'ai dit, est-ce que ça apporte une valeur ajoutée de travailler plus longtemps ? Ou est-ce que c'est pas une régression ? Pour les personnes qui ont le droit aussi à un moment de s'arrêter de travailler. Donc là, je ne me suis pas prononcé, je me suis contenté de... On a démarré tout à l'heure sur la gestion des contraires. Des personnes âgées qui veulent continuer à travailler peuvent technologiquement aujourd'hui le faire grâce à cela. Donc on soutient, c'est pour ça que je parlais de soutenir l'employabilité. Si une personne âgée, après tout, veut continuer à travailler jusqu'à 70 ans, pourquoi l'en empêcher ? Et en même temps, pour pasticher une célèbre formule, est-ce qu'on ne va pas avoir tendance à recourir à ces techniques-là pour faire travailler les personnes plus longtemps ? Et comme on le sait, une personne qui travaille, c'est une personne qui cotise. C'est une personne donc qui n'est pas inintéressante pour le système de fonctionnement de la société.
Donc bon, cela dit, on voit quand même beaucoup d'applications, j'ose dire, positives dans ces...
Oui. Bien sûr.
Dans ces nouvelles technologies, mais pour autant, ça pose quand même des problèmes de droit ou des problèmes éthiques. Alors,
oui.
Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots ? D'ailleurs, c'est la partie 2, je crois,
Tout à fait.
De votre ouvrage.
Tout à fait, oui. Il y a effectivement une question éthique parce que de plus en plus, c'est inéluctable, il va y avoir une cohabitation, une coexistence entre l'homme et la femme âgée. Et les machines, des machines parlantes, des machines émotionnelles. Sachez qu'il existe déjà des robots qui peuvent détecter la tristesse dans le regard d'une personne âgée et qui, au regard de ça, va ensuite la solliciter pour lui demander si elle souhaite que, par exemple, le robot peut projeter un FaceTime et connecter la personne âgée à un proche lorsqu'il sent qu'il y a une tristesse, va lui proposer de diffuser un film, etc. Ça veut dire aussi que ces machines qui deviennent sophistiquées, le psychiatre, justement, Serge Tisseron a écrit un livre il n'y a pas longtemps, « L'emprise insidieuse des machines parlantes », ces machines-là captent des informations. Qui a accès à ces informations derrière ? Qui peut les partager ? Est-ce que les entreprises ne vont pas utiliser ? Il y a tout un secteur dont je n'ai pas parlé, qui s'appelle la silver economy. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ne sont pas animées, qui ne veulent pas nécessairement s'enrichir sur le dos de personnes âgées. Il ne faut pas caricaturer le secteur de la silver economy, hein, pour connaître beaucoup d'acteurs de ce secteur. Ils veulent aussi contribuer au bien-être des personnes. Mais qui va utiliser les informations et à quelle fin ? Donc là, le droit est interrogé d'abord sur la question du consentement. Il est essentiel, les juristes le rappellent, c'est vraiment un grand principe en droit, on ne peut pas être contraint d'être, par exemple, accompagné, si on est en EHPAD, d'un robot. Si on ne veut pas de cette technologie, il faut pouvoir exprimer le refus d'être soumis à cet accompagnement. En sens inverse, si l'on accepte, il faut que l'on soit sûr, et il faut également que la famille le soit, que les données ne vont pas être captées pour des mauvaises raisons. Une machine parlante enregistre des données, c'est pour quoi faire. Vous savez qu'il y a souvent des problèmes de fuitage des données, hein, de santé. Et les données de santé d'une personne âgée, c'est de l'or pour les entreprises, parce que derrière, c'est des propositions de matériel, d'innovation technologique pour mieux accompagner. Donc il y a la nécessité d'éviter cette emprise insidieuse des machines parlantes, donc de bien encadrer par l'éthique, de s'assurer du consentement des personnes âgées à être en contact d'une telle technologie, et puis également de faire en sorte d'appréhender le problème d'un éventuel dommage. On a tous parlé, tous entendu parler du premier décès lié à une voiture autonome. Effectivement, c'est une question redoutable. Le développement des voitures autonomes va permettre à des personnes âgées de pouvoir conduire plus longtemps, puisque ce ne sont pas eux qui conduiront. Mais si jamais le véhicule cause un dommage, qui est responsable ? La personne âgée parce qu'elle a mis le mode véhicule autonome, l'entreprise qui a construit le véhicule, l'ingénieur qui a inventé le système. Bref, on le voit, le droit permet d'accompagner le consentement des personnes, de le garantir, de protéger le respect des données personnelles, de santé notamment, mais pas seulement, et puis éventuellement de prévoir un système de responsabilité en cas de dommage causé ou subi par une innovation technologique ou un robot auprès d'une personne âgée.
Et alors, ça, à votre avis, ça va mettre combien de temps pour entrer concrètement dans le droit français, toutes ces choses ?
Ça va aller assez vite parce que en 2016, déjà, le Parlement européen avait voté une résolution en disant que le développement des technologies d'accompagnement des personnes, notamment âgées, nécessitait peut-être qu'on réfléchisse à la notion de personnalité électronique pour les robots. Alors évidemment, là, il y a un certain nombre d'experts qui sont intervenus en disant « Attention, évitons le syndrome, on appelle ça le syndrome Sophia, vous savez, c'est ce premier robot à effigie c'était effigie d'une femme en Arabie Saoudite, à qui l'Arabie Saoudite a attribué la citoyenneté et également une personnalité juridique. Bon, il est important de rappeler qu'un robot, c'est une chose fabriquée par l'homme. C'est une chose fabriquée par l'homme qui est sophistiquée, qui peut apporter beaucoup, mais en aucun cas, on ne doit donner des droits à ce qui reste une chose. Donc en droit, on a une distinction très importante. Quand les étudiants débutent le droit, on fait la distinction entre la personne et les choses. Voilà. Et je crois que cette thématique passionnante nous invite à revenir vers ces fondamentaux-là, à bien distinguer ce qu'est une personne et ce qu'est une chose. Et à ces titres-là, le droit a un rôle très protecteur à jouer dans l'accompagnement des personnes âgées par des machines émotionnelles parlantes sophistiquées.
Mais que va-t-il se passer si, par exemple, l'Union européenne décide autrement sur le statut de ces robots?
Alors au départ, il avait été question justement de leur donner un statut, et puis face aux résistances et j'allais dire aux réticences, il y a une convergence. Et là, en octobre 2020, l'Union européenne est allée sur un autre terrain en disant on va pas prendre une législation spécifique sur les robots, mais on va plutôt travailler sur les données personnelles que ces robots enregistrent. Donc on va essayer de sécuriser cela. Pour mieux accompagner, il y a eu également en France un très important rapport au Sénat sur la robotisation dans les métiers de service, dans les emplois de service, notamment auprès des personnes âgées. Donc l'idée, ça va être non pas pour l'instant de donner une personnalité juridique justement ou électronique à des robots, mais au contraire de mieux encadrer par le droit les données que les robots enregistrent, de façon à être sûr que ces machines émotionnelles et sophistiquées seront auprès des personnes âgées pour des bonnes raisons. Donc le droit européen est très protecteur, et finalement, là où on se rend compte qu'il y a une convergence, c'est que l'on souhaite de plus en plus aller sur ce terrain, finalement, de la protection des données, de faire des chartes éthiques également. En Corée du Sud, il y en a une. Charte éthique des robots auprès des personnes âgées. C'est un outil qui est bien parce que ça permet d'encadrer les pratiques et en même temps de ne pas oublier que lorsqu'on utilise justement de façon adaptée ces techniques-là, elles améliorent considérablement la qualité de vie des personnes âgées.
D'ailleurs, à propos de la Corée du Sud, bon, il ne s'agit pas d'une personne âgée, mais peut-être que les auditeurs ont vu cette vidéo d'une mère en fait qui retrouve via la réalité virtuelle sa petite fille qui était morte 4 ans plus tôt.
Oui.
Alors, est-ce que ça peut être considéré pas comme une dérive, je ne sais pas, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut encadrer, parce que ça pose beaucoup de questions, en tout cas, ce genre d'expérience.
Ça pose beaucoup de questions, en effet. La mort est également saisie par l'intelligence artificielle. Y a une expérience qui a été faite au Japon, un programme qui a été d'ailleurs récompensé, qui peut mettre mal à l'aise, hein, mais qui est lié au rite funéraire au Japon. Quand on décède, il y a 49 jours, cette période de 7 jours pendant laquelle on accompagne le défunt. C'est une période qui est très douloureuse, qui est difficile pour les Japonais. Eh bien, un robot a été créé à l'effigie de la personne, de façon à l'oublier peut-être, de façon à ce qu'il y ait une transition dans l'oubli de la personne. Je me souviens, donc c'était à l'ambassade de France au Japon qu'on avait expérience, et Serge Tisseron était là, le psychiatre, et il disait, bon, c'est à la fois fascinant et troublant, parce que c'est fascinant, ça peut aider, mais en même temps, il disait, en tant que psychiatre, ça ne facilite pas le travail de deuil de faire revenir la personne qui est véritablement décédée. Et donc là, je serais plutôt tendance à aller sur ce terrain de la dérive que vous mentionnez. Il y a des gourous du virtuel, je vais les appeler comme ça, qui développe parfois, qui utilise la technologie. Quand on se rapproche de la mort, par exemple, vous avez des applications pré-mortem. Je ne sais pas si vous mentionné effectivement ce fait troublant en Corée, mais aux États-Unis, c'est un robot qui a annoncé à une personne qu'elle allait mourir dans les 3 semaines. Normalement, le chirurgien aurait dû annoncer la nouvelle. Ça n'a pas fonctionné. Du coup, c'est une machine qui a annoncé à l'individu que voilà. Il n'y a plus que 3 semaines à vivre et qu'il fallait prendre. Donc là, on arrive, vous voyez, aux limites, sans doute, du recours à l'intelligence artificielle. Ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire qu'on approfondit les connaissances. On peut, des machines, une expérience a été menée, des machines sophistiquées, grâce à l'intelligence artificielle, peuvent prédire à quelques jours près le décès d'un individu en fonction de sa maladie. Donc là, on touche aux limites, et je me suis montré très critique dans l'ouvrage, en disant que c'était la mort de la mort si on utilisait la technologie en ce sens. En sens inverse, encore quelques secondes, je suis bavard, excusez-moi, en France se développe une technologie, le code QR, Quick Response, qu'on connaît tous et toutes, hein, dans les cimetières. Par exemple, on a des arrière-grands-parents, on ne sait pas leur vie. Eh bien, en fait, vous arrivez devant l'espace dans le cimetière et un site est créé dans lequel vous avez des photos ou parfois même des vidéos des personnes. Et donc, on peut parler dans ce cas-là d'une sorte de résurrection technologique de la personne. On voit ce que sa vie a été. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à se développer, le recours à la technologie également dans les cimetières. Donc vous voyez qu'il y a alors là aussi des enjeux juridiques considérables. Qui s'occupe du site internet? Si un hacker glisse des photos qui portent atteinte à la réputation, on voit les conséquences derrière. Et puis dernier point, les comptes Facebook des gens qui meurent. Il y a des milliards de comptes qui vont survivre aux personnes. Et donc des entreprises commencent aujourd'hui à dire, nous dans le package, on intègre également, si vous le souhaitez, la fermeture ou la continuation du compte Facebook de la personne décédée.
Oui, ça me laisse sans voix. Merci en tout cas Emmanuel Aubin d'être venu dans cette méridienne pour parler de vos divers travaux, entre autres de cet ouvrage « Les personnes âgées et les robots, innovation technologique, droit et éthique » donc qui paraît je crois cette semaine chez Berger Levrault.
Tout à fait, je vous remercie infiniment.
Voilà, donc on le retrouvera évidemment dans toutes les bonnes librairies et peut-être même dans les bibliothèques universitaires.
Normalement oui, c'est un éditeur juridique, ouais, c'est le plus vieil éditeur juridique.
Voilà, merci. Peut-être avant de terminer cette émission, est-ce que vous voudriez nous dire si vous travaillez sur autre chose en ce moment, outre les personnes âgées ?
Oui, tout à fait. Là, en ce moment, je travaille beaucoup sur les réformes de la fonction publique et puis sur un colloque sur les lanceurs d'alerte que nous allons faire, droit privé, droit public, droit européen. Donc là aussi, c'est de l'éthique, mais dans un autre domaine. Et puis la préparation, comme je disais tout à l'heure, du colloque, on va le faire très sérieusement maintenant sur droit et gastronomie.
Et tout ça, c'est à retrouver sur le site de l'IRJ, peut-être ?
Oui, sur le site de l'IRJ, effectivement, seront annoncés au fur et à mesure ces événements scientifiques.
Eh bien, merci encore.
Merci à vous.
Et, chers auditeurs, il est temps de se quitter. Donc, cette émission est à réécouter aujourd'hui même à 17h et à retrouver en podcast, évidemment, sur notre site radiocampustour.com. Et nous nous quittons en écoutant Billie Holiday. Je vous souhaite à tous une excellente journée à l'écoute de nos non moins excellents programmes. Without a song, the day will never end. Without a song, the road will never bend. When things go wrong, a man ain't got no friend. Without a song. That field of corn will never see a plow. That field of corn would be deserted now. A man is born, but he's no good no how. Without a song. I got my trouble and woe, but sure as I know the Jordan will roll, I'll get along as long as a song is strung in my soul. I'll never know what makes the rain to fall. I'll never know what makes the grass so tall. I only know there ain't no love at all without a song. Ba ba da ba doo ya, ba doo la, ba doo da da, ba doo da doo da doo da doo da da doo da, ba da 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 da, ba 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 ba, da 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 da, da 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 da, ba ba poo ba ba poo ba ba, poo be poo ba. Ba ba do ba de do da, let it.